Fin de la quatrième narration. Nous trouvons M. Blake en train de s'agiter dans son lit et de se demander avec impatience si on lui donnerait le laudanum cette nuit. En présence des deux témoins, je lui administre l'opium, j'arrange ses oreillers et je le prie de se recoucher tranquillement. Son lit, entouré de rideaux de perse légère, était placé la tête contre le mur, conservant un assez grand espace vide autour de lui. D'un côté du lit, je tire entièrement les rideaux et je prie M. Bruff et Betteridge de se tenir dans la partie de la chambre ainsi masquée à sa vue. De l'autre côté, je laisse les rideaux entr'ouverts et je place ma chaise assez près de son lit pour qu'il puisse à volonté me voir ou ne pas me voir et me parler selon que les circonstances l'exigeront. Sachant qu'il gardait toujours une veilleuse dans sa chambre, je pose l'une des bougies sur une petite table à la tête de son lit, mais de façon qu'elle ne blesse pas ses yeux. L'autre, que je donne à M. Bruff, est caché à la vue de M. Franklin par les rideaux. Pour aérer la pièce, nous avons entr'ouvert la fenêtre. On entend tomber une pluie légère au milieu du silence de la nuit. Il est alors 11h20, et je m'installe sur ma chaise au pied du lit. M. Bruff reprend ses papiers et affecte de leur consacrer encore toute son attention. Mais je découvre plusieurs indices qui m'annoncent que la loi commence à perdre quelque peu de son intérêt pour lui. Malgré son peu d'imagination, il se laisse gagner, lui aussi, à la curiosité. Quant à Betteridge, adieu la fermeté de ses principes et la dignité de son attitude. Il oublie que je ne suis qu'un faiseur de tours, il oublie que j'ai bouleversé toute la maison, il oublie que je n'ai jamais relu Robinson Crusoe depuis mon enfance, et se penchant vers moi, il me glisse mystérieusement « Pour l'amour de Dieu, monsieur, dites-nous donc vers quelle heure l'effet commencera à se faire sentir ?»« Pas avant minuit, » dis-je à demi-voix. « Ne parlez plus et tenez-vous tranquille. » Betteridge descend au dernier degré de la familiarité avec moi, sans même faire un effort pour sauver sa dignité. Il me répond par un clignement d'yeux. Je regarde ensuite M. Blake et je le vois toujours aussi agité. Il est de mauvaise humeur parce que le laudanum tarde à agir. Lui dire que plus il s'impatiente ainsi, plus il éloigne le résultat désiré, serait peine perdue. Le plus sage est donc de le distraire de l'idée de l'opium en détournant son attention sur un autre sujet. Dans ce but, je l'encourage à causer avec moi. J'essaie d'amener de mon côté la conversation sur le point dont nous nous étions entretenus dans la soirée, c'est-à-dire sur le diamant. J'insiste de préférence sur certains détails de l'histoire de la pierre de lune, comme son transport de Londres dans le Yorkshire, le risque que M. Blake avait couru en la retirant de la banque de Frizinghall, et l'apparition inattendue des Indiens le soir du jour de naissance. Je fais semblant d'avoir mal compris ce que M. Blake lui-même a raconté à ce sujet quelques heures auparavant. Je le provoque ainsi à parler de tout ce dont il importe absolument que son esprit reste empreint. Mais je ne lui laisse pas soupçonner que je suis un plan préconçu. Peu à peu, la conversation l'intéresse tellement qu'il oublie de s'agiter dans son lit. Sa pensée perd de vue l'opium au moment même où l'effet du narcotique commence à se manifester dans ses yeux. Je regarde ma montre. Il est 5:00 lorsque les symptômes précurseurs de l'action du laudanum se révèlent pour la première fois. À cet instant, des yeux inexpérimentés n'apercevraient aucun changement en lui. Mais à mesure que les minutes s'écoulent, le progrès subtil de l'influence enivrante se manifeste plus clairement. L'ivresse de l'opium brille dans ses yeux et sa figure ruisselle de sueur. 5 minutes après, sa conversation devient incohérente. Il n'abandonne pas le sujet du diamant, mais ses phrases cessent d'être complètes. Un peu plus tard, ce ne sont plus que des mots entrecoupés, puis il y a un intervalle de silence. Enfin, il s'assied dans son lit. Alors, l'esprit plein de la même pensée, il recommence à parler, non à moi, mais avec lui-même. Ce changement m'indique que l'expérience est entrée dans sa première phase et que l'action stimulante de l'opium va se produire. Il est alors 23:00. Dans une demi-heure ou plus tard, sera décidée la question de savoir s'il quittera ou non son lit et s'il sortira de sa chambre. Tandis que toute mon attention était portée sur M. Blake, tandis que je m'abandonnais à la joie de voir le succès se dessiner de la façon que j'avais prévue, et presque au moment annoncé par moi, j'avais complètement oublié mes compagnons de veillée. Quand je tourne mes regards vers eux, je vois la loi, autrement dit les papiers de M. Bluff, jetés par terre sans aucun égard. M. Bluff lui-même, à travers une ouverture laissée entre les rideaux, observe avidement ce qui se passe. Et Betteridge, foulant aux pieds tout respect des distances sociales, regarde par-dessus l'épaule de l'avoué. Tous deux, en rencontrant mes yeux, tressaillent comme des écoliers pris en faute. Je leur fais signe d'ôter leurs chaussures en silence, ainsi que je le faisais de mon côté. Si M. Blake nous donne l'occasion de le suivre, il est indispensable que nous le suivions sans bruit. 10 minutes s'écoulent. Rien. Puis, rejetant soudain ses couvertures, il met une de ses jambes hors du lit et attend. « Plût à Dieu que je ne l'eusse jamais retiré de la banque, » se dit-il à lui-même. Au moins, là, il était en sûreté. Mon cœur bat à se rompre, et le mouvement des artères de mes tempes s'accélère furieusement. L'inquiétude à propos du diamant renaît dans le cerveau de M. Franklin, et c'est là-dessus que repose tout le succès de l'épreuve que nous tentons. Dans l'état d'ébranlement où se trouvent mes nerfs, il y a là une source d'anxiété trop forte pour moi. Il faut que je détourne les yeux, autrement je perdrai mon sang-froid. Nouveau silence. Lorsque je me sens assez maître de moi pour regarder du côté de M. Blake, je le vois hors de son lit et tout debout. Les pupilles de ses yeux sont contractées et leur globe brille à la lumière de la bougie, tandis qu'il balance lentement la tête comme quelqu'un qui réfléchit et ne peut prendre une résolution. Enfin, il se remet à parler. « Que sais-je ? » dit-il. « Les Indiens sont peut-être cachés dans la maison. » Il se tait, va à pas lents jusqu'au bout de la chambre, se retourne, attend et revient vers son lit. « Il n'est même pas enfermé à clé, » continue-t-il. « Elle l'a mis dans un tiroir du meuble, et ce tiroir ne ferme pas. » Il s'assied sur le bord du lit. « Tout le monde peut s'en emparer, » dit-il. Il se lève de rechef, en proie à une vive agitation, et répète sa première phrase. « Que sais-je ? Les Indiens sont peut-être cachés dans la maison. » Il attend encore. Je me retire derrière les rideaux du lit. Lui promène ses yeux tout autour de la chambre avec un regard absent, quoique brillant de l'éclat de la fièvre. Il y a un moment d'attente plein d'angoisse, car il se fait un temps d'arrêt. Mais est-ce l'action de l'opium qui subit une intermittence ou le travail du cerveau ? Qui le dira ? Tout dépend maintenant de ce qu'il va faire. Il se recouche sur son lit. Un doute poignant traverse mon esprit. Est-il possible que l'effet narcotique de l'opium se fasse déjà sentir ? Mon expérience de cette drogue rend la supposition peu probable. Mais qu'est-ce que l'expérience lorsqu'il s'agit de l'opium ? Il n'existe assurément pas deux hommes chez lesquels cette substance produise exactement les mêmes effets. Le tempérament particulier de M. Blake ne le prédisposerait-il pas à ressentir plutôt l'influence assoupissante ? Sommes-nous destinés à échouer au port ? Non, il se relève brusquement. « Comment diable parviendrai-je à dormir ? » dit-il, avec une pareille préoccupation. Il regarde la lumière placée à la tête de son lit. Un instant après, il prend en main le bougeoir. J'éteins la seconde bougie qui brûlait derrière les rideaux fermés, et je me retire tout au fond de la chambre avec M. Bluff et Betteridge, leur enjoignant le silence, comme si notre existence en eût dépendu. Nous attendons sans rien voir ni rien entendre, cachés à sa vue par les rideaux. Tout à coup, la lumière qu'il tenait à la main se met en mouvement. Aussitôt, il passe près de nous, rapidement et sans bruit, le bougeoir à la main. Il ouvre la porte qui donne sur le corridor et sort. Nous le suivons sur l'escalier, puis le long du second corridor. Il ne se retourne ni n'hésite une seule fois. Il pousse vivement la porte du petit salon et y entre, la laissant ouverte derrière lui. La porte, semblable à toutes celles de la maison, reposait sur de larges gonds à l'ancienne mode. Il restait donc assez de jours entre le mur et le battant lorsqu'il était ouvert. Je fais signe à mes deux compagnons de se placer de façon à regarder par cet espace sans risquer d'être vu, et je me mets aussi en observation de l'autre côté de la porte. À ma main gauche, un renfoncement dans la muraille me permettait de me dissimuler sur le champ, si M. Blake faisait mine de se rapprocher du corridor. Il s'avance jusqu'au milieu de la pièce, toujours son flambeau à la main, et regarde tout autour de lui, mais jamais du côté de l'entrée. Je vois que la porte de la chambre de Miss Verinda est restée entr'ouverte. Elle éteint sa lumière et se contient admirablement. L'ombre de son vêtement d'été décèle seule sa présence. Il faut en avoir été prévenu pour se douter qu'il y a là une créature vivante. Pas un mot, pas un geste ne lui échappe dans l'obscurité. Ma montre marque 1h10. J'entends au milieu du silence profond le bruit monotone de la pluie d'été et le murmure de la brise qui souffle à travers les arbres. Après s'être arrêté irrésolu en plein salon, l'espace de quelques instants, M. Blake se dirige droit vers le coin où se trouve le cabinet des Indes. Il pose le bougeoir sur le haut du meuble, dont il ouvre et referme successivement tous les tiroirs jusqu'à ce qu'il arrive à celui qui contient le faux diamant. Il regarde alors attentivement à l'intérieur. Puis il saisit la fausse pierre de sa main droite. De l'autre, il reprend le flambeau posé sur le haut du meuble. Il fait alors quelques pas jusqu'au milieu de la pièce et là s'arrête de nouveau. Jusqu'ici, il a agi exactement comme il avait dû le faire le soir du jour de naissance. Ses faits et gestes subséquents vont-ils de même répéter ceux de l'an passé? Quittera-t-il la pièce? Rentrera-t-il dans sa chambre, comme je crois qu'il a dû le faire autrefois? Saurons-nous comment il a jadis disposé du diamant lorsqu'il est revenu chez lui? La première chose que nous lui voyons faire, une fois sorti de son immobilité, est une chose qu'il n'a point faite dans la nuit du vol. Il pose sa bougie sur la table, puis se promène encore un peu dans la pièce, à une des extrémités de laquelle se trouve un sofa. Là, il s'appuie lourdement sur ce meuble et, se secouant, s'efforce de regagner le milieu du salon. Je puis maintenant voir ses yeux. Ils deviennent troubles et lourds, et leur feu s'éteint rapidement. C'est trop d'émotion pour Miss Verinda. En dépit d'elle-même, son sang-froid l'abandonne. Elle fait quelques pas en avant et s'arrête. Monsieur Bruff et Betteridge me regardent pour la première fois. La prévision d'une déception se fait jour dans leur esprit, aussi bien que dans le mien. Cependant, tant que Monsieur Blake paraît ainsi livré à ses réflexions, il reste de l'espoir. Nous attendons avec une cruelle angoisse ce qui va se passer. Son premier mouvement est décisif. Il laisse échapper de ses mains le faux diamant qui glisse sur le parquet et reste devant la porte, bien visible à ses yeux et à ceux de chacun de nous. M. Blake ne fait aucune tentative pour le ramasser, le regarde vaguement, et pendant ce temps, sa tête s'affaisse sur sa poitrine. Il chancelle, se ranime encore par un effort violent, marche vers le canapé et s'y assied. Il essaie encore de se relever, mais ses jambes refusent de le soutenir et sa tête retombe sur les coussins du canapé. Il est alors 1h25. Je n'ai pas remis ma montre dans mon gousset que déjà il est endormi. Tout est fini. L'influence narcotique a pris le dessus et l'expérience est à son terme. J'entre dans la pièce et je dis à M. Bruff et à Betteridge qu'ils peuvent me suivre. Il n'y avait plus à craindre de le déranger. Nous étions libres de parler et d'agir. La première chose à régler, dis-je, est de savoir ce que nous allons faire de M. Blake. Il dormira au moins 6 ou 7 heures, et pour le porter dans sa chambre, la distance est encore assez grande. Lorsque j'étais plus jeune, je m'en fusse bien chargé. Mais ma santé et mes forces ont tant décliné que je crains de devoir vous prier de m'aider. » Avant qu'ils aient pu répondre, Miss Verinda m'appelle à voix basse. Elle me rejoint à la porte de sa chambre. Je vois sur son bras un châle et un couvre-pied. « Comptez-vous le veiller pendant son sommeil ?» dit-elle. « Oui, je ne connais pas assez l'effet de l'opium sur son tempérament pour consentir à le laisser seul. » Elle me tend le châle et le couvre-pied. « Pourquoi le déranger ?» dit-elle tout bas. « Faites-lui son lit sur le sofa. Je fermerai ma porte et je resterai dans ma chambre. » Certes, c'est là l'arrangement le plus simple et le meilleur. Je transmets la proposition à mes deux compagnons qui y donnent leur assentiment. Au bout de 5 minutes, j'ai couché M. Blake sur le canapé. Le châle et le couvre-pied le protégeront contre le froid de la nuit. Miss Verinda nous souhaite le bonsoir et rentre chez elle. Nous nous asseyons alors tous trois autour de la table sur laquelle brûle une bougie et qui porte ce qu'il faut pour écrire. Je prends la parole pour formuler la demande suivante. « Avant de nous séparer, dis-je, j'ai un mot à dire au sujet de l'épreuve qui a été tentée cette nuit. Nous désirions atteindre 2 buts bien distincts. Le premier était d'établir que lorsque M. Blake entra l'année dernière dans cette chambre et prit le diamant, il était sous l'influence de l'opium, et qu'il n'avait ni la conscience ni la responsabilité de ses actes. Après ce que vous venez de voir, vous déclarez-vous tous deux convaincus et fixés sur ce point ?» Ils me répondent affirmativement et sans un moment d'hésitation. Je poursuis. Notre second espoir était de découvrir ce que M. Blake avait pu faire du diamant après que Miss Verinda l'eût vu quitter le salon, tenant le diamant dans sa main. La réussite sur ce point dépendait naturellement de l'exacte répétition des faits de l'année dernière. Ici, nous avons échoué, et le but de l'épreuve est manqué. Je ne puis nier que je n'en ressente un vif désappointement, mais j'avoue franchement aussi en être peu surpris. J'ai dit dès le début à M. Blake que notre succès dans cette affaire dépendait de notre aptitude à le replacer plus ou moins complètement dans les mêmes conditions physiques et morales que celles de l'année dernière. Et je l'ai prévenu en même temps que c'était demander presque l'impossible. Nous n'avons pu reproduire qu'une partie des conditions indispensables, et par conséquent l'épreuve n'a réussi qu'en partie. Il est possible que j'aie administré une trop forte dose de laudanum. Mais néanmoins, j'ai, je crois, indiqué tout à l'heure la vraie raison du demi-résultat que nous venons d'obtenir. Après avoir ainsi parlé, je place devant M. Bluff du papier, une plume et de l'encre, et je lui demande si, avant que nous nous séparions, il a quelque objection à dresser et à signer une sorte de procès-verbal de ce qu'il a vu et entendu pendant cette nuit. Il prend aussitôt la plume et se met à l'œuvre avec la promptitude et le savoir-faire d'un homme habitué aux travaux de rédaction. « Je vous dois bien cela, me dit-il en signant le papier, comme réparation de ce qui s'est passé auparavant entre nous. Je vous demande pardon, Monsieur Jennings, d'avoir douté de vous. Vous avez rendu à Franklin Blake un inestimable service. Nous autres gens de loi, nous dirions que vous avez gagné votre cause. » Quant à Betteridge, son originalité perce encore dans les excuses qu'il m'adresse. « Monsieur Jennings, me dit-il, lorsque vous relirez Robinson Crusoe, ce que je vous engage instamment à faire, vous y verrez qu'il n'hésite jamais à reconnaître ses torts lorsqu'il en a eu. Veuillez croire, monsieur, que dans la circonstance présente, j'imite Robinson Crusoe. » Sur ces mots, il signe à son tour le papier. Au moment où nous nous levons, Monsieur Bluff me prend à part. « Un mot encore au sujet du diamant, dit-il. Vous supposez que Franklin Blake a caché le diamant dans sa chambre, et mon avis est que la pierre se trouve dans les mains des banquiers de M. Luca. Nous ne nous disputerons pas à qui aura raison. Nous nous demanderons seulement lequel de nous deux a le plus de chances pour arriver à découvrir la vérité. L'épreuve a été faite cette nuit de mon côté, dis-je, et elle a échoué. Celle que je me propose de tenter, répond M. Bluff, n'est encore qu'en préparation. J'ai fait surveiller pendant ces derniers jours les rapports de M. Luca avec la banque et je continuerai ainsi jusqu'à la fin du mois. Je sais qu'il faut qu'il retire lui-même la pierre de chez ses banquiers et j'agis dans l'hypothèse que la personne qui a engagé le diamant à M. Luca le mettra en demeure de le retirer en venant s'acquitter vis-à-vis de lui à la fin du présent mois. En ce cas, je pourrais peut-être mettre la main sur la personne en question. Nous avons là une chance de pénétrer le mystère qui défie tous nos efforts. Partagez-vous mon opinion jusqu'ici? Je n'avais rien à objecter à son avis. Je retourne à la ville demain matin par le premier train, dit l'avoué. Je puis apprendre en arrivant qu'on a fait une découverte intéressante, et alors il serait de la plus grande importance que j'eusse Franklin Blake à m'apporter le cas échéant. J'ai l'intention de lui dire, aussitôt qu'il s'éveillera, qu'il doit revenir avec moi à Londres. Après tout ce qui vient de se passer, Puis-je compter sur votre concours dans cette occasion ? Certainement, dis-je. M. Braff me serre la main et quitte la chambre. Betteridge le suit. Je m'approche du sofa. M. Blake n'a pas bougé depuis que je l'y ai déposé, et il dort du sommeil le plus paisible sur sa couchette improvisée. Pendant que je le regarde, j'entends qu'on ouvre doucement la porte de la chambre. Miss Verinder paraît sur le seuil dans son joli costume d'été. « Rendez-moi un dernier service, me dit-elle à voix basse. Laissez-moi le veiller avec vous. » J'hésite, non par un sentiment exagéré de convenance, mais dans l'intérêt de son repos. Elle s'approche tout près de moi et me prend la main. « Je ne puis dormir, je ne peux même pas rester tranquille dans ma chambre, » fait-elle. « Oh, monsieur Jennings, si vous étiez à ma place, songez donc combien vous désireriez être près de lui, ne fût-ce que pour le regarder. Dites donc oui, je vous en prie. Est-il bien nécessaire d'ajouter que je consens ? » Elle va s'asseoir au pied du canapé et se met à contempler M. Blake, absorbé dans l'ineffable sentiment de son bonheur. Les larmes la gagnent, elle se lève sous prétexte d'aller chercher son ouvrage. Elle l'apporte en effet, mais n'y fait pas un seul point, car elle ne peut quitter des yeux l'objet de sa contemplation, fût-ce seulement le temps nécessaire pour enfiler son aiguille. Je songe à ma jeunesse évanouie, aux yeux si tendres qui eux aussi m'avaient regardé avec amour. Dans la tristesse de mon cœur, je demande des consolations à mon journal et j'y écris le présent récit. Nous veillons ainsi en silence, l'un absorbé dans son travail, l'autre perdu dans ses rêves d'avenir. Les heures se passent et le sommeil persiste. L'aube naissante se répand dans la chambre, il ne remue pas. Vers 6 heures, je pressens le retour de mon mal et, sous prétexte d'aller chercher un oreiller, je quitte Miss Verinder. Cette fois, mes douleurs ne sont pas de longue durée et peu après, je suis en état de revenir près d'elle. Je la trouve au chevet du canapé. Elle posait ses lèvres sur le front du dormeur. Je secoue la tête d'un air aussi sérieux que possible et je lui montre sa chaise. Elle me gratifie d'un charmant sourire, la figure colorée par l'émotion. « Vous auriez fait le même, » me dit-elle tout bas, « si vous eussiez été à ma place. » 8 heures. Il commence à s'étirer. Miss Verinder s'agenouille près du canapé. Elle s'est placée de façon à recevoir son premier regard lorsque ses yeux s'ouvriront. « Dois-je les laisser seuls ?»« Oui. » 11 heures. La maison est redevenue silencieuse. Tous les arrangements sont faits entre eux. Ils sont partis pour Londres par le train de 10 heures. Mon court rêve de bonheur s'est évanoui. Je renais aux réalités d'une vie solitaire et dépouillée d'affection. J'ose à peine transcrire ici les témoignages d'amitié qui m'ont été prodigués, surtout par Miss Verinder et M. Blake. Au surplus, c'est inutile. Ces souvenirs reviendront charmer mes heures d'isolement et adouciront ce qu'il me reste de jours à vivre. M. Blake doit m'instruire de ce qui se passera à Londres. Miss Verinder reviendra dans le Yorkshire à l'automne pour son mariage, et on compte sur moi comme sur un hôte prenant chez eux ses vacances. Ah, quelle joie j'ai éprouvée lorsque les yeux rayonnants de bonheur et de gratitude, elle m'a pressé tendrement la main comme pour me dire « Ceci est votre œuvre ». Mes pauvres malades m'attendent. Reprenons sans plus tarder notre collier de misère. Dès ce soir, me voici forcé de choisir, hélas, entre l'opium et la souffrance. Dieu soit loué dans sa miséricorde. Il m'a accordé quelques rayons de soleil. J'ai passé des jours heureux.